Impatience, Nancy Ypsilantis.
Nouveau détecteur de pollution, vous nous l'avez dit tout à l'heure, Emmanuel Grippon, en compagnie de Pierre Bracci, c'est le LIDAR.
Oui, évolution disons, parce que le LIDAR c'est quelque chose qui existe depuis pas mal de temps, on va le voir dans quelques instants avec Jean-Pierre Wolf. Le LIDAR c'est un principe qui existe depuis longtemps, c'est-à-dire de prendre des lasers et de les envoyer dans l'air. Je ne vais pas vous faire toute l'explication, Jean-Pierre Wolf la fera beaucoup mieux que moi dans quelques instants, mais disons que jusqu'à présent, ce qu'on pouvait faire avec ce LIDAR, c'était de suivre une particule et puis d'essayer de repérer sa quantité dans l'air. On pouvait le faire qu'avec une seule particule parce qu'il fallait avoir une fréquence de lumière bien précise. Et c'est le principe du laser, c'est d'avoir une fréquence de lumière extrêmement pure. Alors aujourd'hui, on a développé des nouvelles formes de laser, le laser blanc, c'est-à-dire un laser qui a toutes les couleurs. Et avec ça, on a beaucoup, beaucoup changé les choses. On arrive à faire une étude totalement différente de la composition des polluants qui se trouvent dans l'air. Je vous propose d'écouter Jean-Pierre Wolf.
C'est pour mesurer la pollution dans l'air, et pas seulement la mesurer en un point comme on fait habituellement avec des systèmes de mesure dans des réseaux, qui sont d'ailleurs très précis et qui sont très utiles, mais qui permet vraiment de faire des cartes géographiques de concentration de polluants. Un peu comme quand on regarde une carte météo à la télé, on vous raconte qu'il y a une dépression ici, etc., on voit les nuages, mais il faut imaginer qu'on peut faire pareil avec des concentrations de polluants, et puis comme ça voir à quels endroits on a une concentration élevée due à un émetteur, ou bien une concentration secondaire due à une production chimique dans l'atmosphère. Les lasers servent pour aller mesurer n'importe où dans l'atmosphère, le long de la trajectoire du laser, une concentration d'un polluant donné.
Vous êtes à même, avec un laser, de mesurer sur l'ensemble de la surface, enfin, même pas de la surface, parce que c'est du volume, on est capable de mesurer l'ensemble de la région genevoise et de ces pollutions pour certains types de particules.
Alors, en principe, oui. La restriction majeure, c'est en fait les bâtiments eux-mêmes. Il faut avoir une visibilité pour que le faisceau laser puisse se propager le long de sa trajectoire. Donc c'est clair que s'il y a un bâtiment en face, par exemple, on ne pourra pas traverser le bâtiment puis aller voir ce qu'il y a derrière. Mais par exemple, on a installé dans les années 90 à Iéna un premier système de ce type-là, un système laser, qui mesurait la pollution au-dessus de toute la ville de Iéna, sur un rayon d'une dizaine de kilomètres. Et donc on pouvait faire des cartographies en 3D, vraiment tridimensionnelles. Alors à l'époque, c'était beaucoup les oxydes de soufre. Il faut voir que c'était l'ancienne Allemagne de l'Est, donc il y avait beaucoup de soufre émis. Et on pouvait faire comme ça des cartographies tridimensionnelles. Alors j'ai une petite anecdote. Les premières campagnes qu'on avait faites sur le soufre, on les avait faites à Berlin, juste avant la chute du mur, en 1988. Et on était invités par la ville de Berlin-Ouest pour aller mesurer la pollution importée de Berlin-Est. Parce qu'à l'époque, à Berlin-Ouest, le problème principal, c'est qu'il n'arrivait pas à être dans les normes de pollution de l'Allemagne de l'Ouest. Et la raison invoquée, c'était bien sûr les petits voisins qui émettaient beaucoup de pollution et qui, du coup, leur exportaient tout ça. Et du coup, ils n'arrivaient pas à être dans les normes. Donc, on a été invité par la ville de Berlin. Il faut imaginer, petite camionnette, tout ça. À l'époque, on était encore à l'école polytechnique à Lausanne. Et on a été se mettre à côté du mur, mesurer la pollution de l'autre côté du mur, puisque la lumière n'a pas besoin de visa. Imagine seulement sur les miradors, les gens qui nous regardaient avec leurs jumelles. C'est vraiment des souvenirs assez exceptionnels. On envoyait le laser de l'autre côté. On mesurait l'émission par le chauffage au charbon, essentiellement, de soufre. Et puis, on voyait l'importation sur Berlin-Ouest de ces émetteurs. Donc, ça te permet de faire vraiment une cartographie et un suivi des polluants depuis leur émetteur jusqu'à l'endroit où tu les respires, ce qu'on appelle l'émission.
Juste pour boucler la boucle de l'anecdote, est-ce que c'est bien Berlin-Est qui polluait Berlin-Ouest ou il y avait d'autres problèmes?
Alors ça, c'est une excellente question. C'est très amusant parce que, en fait, ça dépend du polluant que tu regardes. Donc, le dioxyde de soufre, ce qui était demandé par Berlin-Ouest, était largement plus émis à l'est qu'à l'ouest. C'était normal, on le savait, puisqu'il se chauffait essentiellement au charbon, et un charbon d'une qualité pas très très bonne, et ça n'a pas été une surprise de voir qu'il y avait une réelle importation. Par contre, si on avait mesuré les oxydes d'azote, par exemple, qui eux sont émis par les voitures, On ne l'a pas fait parce que le mandat n'était pas ça, mais j'ai aucun doute qu'on aurait vu une pollution importée par Berlin-Est depuis Berlin-Ouest.
Alors ça, c'était la fin des années 90, autant dire, si je résume bien, le Moyen-Âge, hein, oui. À peu près. Pourquoi on en parle aujourd'hui alors ?
Alors on en parle aujourd'hui parce qu'entre-temps, il y a eu une véritable révolution au niveau des sources laser. À l'époque, on mesurait un polluant à la fois. Donc on mesurait par exemple le dioxyde de soufre. Aujourd'hui, on arrive à faire des lasers blancs. Alors les lasers blancs, ça a l'air un peu bizarre parce que d'habitude, on a cette image du laser comme étant la manière la plus pure de faire une couleur. Et donc c'est exactement le contraire du blanc qui, lui, contient toutes les couleurs à la fois, comme on le sait en sortant d'un prisme. Alors quel est l'avantage de faire ça ? Ben, c'est de mesurer tous les polluants en même temps. Au lieu de mesurer le SO2, dans le cas précédent, on aurait pu en même temps mesurer les oxydes d'azote, mesurer l'ozone, mesurer les particules fines, tout en même temps. Donc cet avènement de ces lasers blancs permet maintenant de mesurer tout en même temps, donc à la fois de voir des mouvements de différents polluants, mais aussi d'accéder à la chimie et la photochimie, parce que les polluants émis, évidemment, évoluent. On les émet d'abord sous forme de SO2 et puis ensuite ça devient de l'acide sulfurique, hein, les fameuses pluies acides. L'exemple classique de ça, c'est l'ozone. Il n'y a pas d'émetteur d'ozone direct. En général, l'ozone est fabriqué par des polluants primaires qui sont les oxydes d'azote et les composés organiques volatiles, ça veut dire les hydrocarbures. Donc, si on veut regarder la production d'ozone, on est en principe obligé de regarder en même temps les polluants primaires qui ont donné lieu à ce polluant secondaire.
Quand vous dites avec une lumière blanche, on voit tout, ça veut dire que pour une fréquence, pour une couleur précise, correspond une substance précise. C'est-à-dire que si on veut voir, on parlait du soufre, si on veut voir le soufre, on va devoir émettre à telle fréquence, donc à telle couleur. C'est bien ça ?
C'est exactement ça. La manière dont les molécules absorbent les différentes couleurs de la lumière est absolument unique. Ça veut dire que chaque molécule a sa propre empreinte digitale d'absorption. Donc elle va absorber le spectre d'une manière unique. Si maintenant je vais regarder une autre molécule, elle aura une manière d'absorber les différentes couleurs qui est complètement différente. Donc jusqu'à présent, comme on avait des lasers avec une pureté spectrale très grande, donc une pureté de la couleur très grande, on se mettait sur une absorption spécifique d'une molécule et puis on mesurait la manière dont l'atmosphère absorbait cette couleur-là. Et s'il y avait cette molécule dans l'air, elle absorbait cette couleur-là, qu'on comparait à une autre couleur non absorbée. Et s'il n'y en avait pas, il n'y avait pas d'absorption. Mais on était limité à cette molécule-là parce qu'on n'avait qu'une seule couleur à disposition. Imagine maintenant que tu as une batterie de laser avec n'importe quelle couleur dedans et que tu les envoies tous en même temps, chaque laser étant dédié, entre guillemets, à une absorption spécifique d'un polluant. Alors tu peux mesurer simultanément les absorptions de ces polluants et donc les concentrations de ces polluants distinctement. Alors c'est ça que fait le laser blanc, tu n'as pas besoin de la batterie de laser parce que tu en as un seul qui envoie toutes les couleurs en même temps.
Pratiquement, on l'utilise comment ?
Alors pratiquement, il y a un petit concept que j'ai jusqu'à maintenant escamoté, c'est qu'on voit bien ce qui peut se passer si je balaye, comme ça, si je bouge un faisceau laser dans un nuage. On voit bien que je vais réussir, suivant l'angle, à avoir une absorption plus ou moins grande. Je le traverse, le nuage, j'ai plus. Je ne le traverse pas, j'ai moins. Mais on peut se poser la question, comment est-ce qu'on mesure le long de la trajectoire du laser ? Et ça, c'est assez amusant parce que la technique, c'est comme un radar. Donc un radar, ça marche comment ? Tu envoies une impulsion radiofréquence, elle se déplace dans une certaine direction, à la vitesse donc de l'onde électromagnétique, qui est la vitesse de la lumière. Elle va arriver sur un objet, après un certain temps. Cet objet va réfléchir la lumière, ou l'onde radar, et cette lumière, ou cette onde radar, va mettre un certain temps pour revenir. Si je mesure maintenant le temps d'aller-retour, je sais où est l'objet. Et donc c'est comme ça que marchent tous les radars. Alors, il y en a certains qui sont moins marrants que des autres, il y en a qui mesurent la vitesse en même temps. Mais dans le cas présent, on fait exactement la même chose, on envoie des impulsions lumineuses. Et pour arriver jusqu'au nuage polluant, elle met un certain temps, de même pour revenir. Donc je sais à quelle distance est ce nuage polluant. Ça me donne la résolution spatiale, ça me donne la distance à laquelle se trouve le polluant sur l'axe du laser. Donc c'est une sorte de radar intelligent, entre guillemets, puisque c'est un radar qui est sensible au polluant que je veux mesurer. Donc maintenant, j'ai ma résolution le long de l'axe, je peux balayer en angle, et à ce moment-là, j'ai la résolution 3D.
Impatience. Chose promise, chose due, Emmanuel Grippon, exercice pratique.
Oui, exercice pratique, parce que la première chose que je me suis demandé, c'est de savoir si on utilisait déjà actuellement ces lidars pour tester la qualité de l'air. La réponse de Jean-Pierre Wolf.
Non, ça reste encore des systèmes qui sont utilisés par des chercheurs. Il y a des réseaux de mesures, hein. Il y a des réseaux de mesures qui sont liés soit à un service d'hygiène cantonal, communal, national, etc. Et donc ces réseaux de mesures sont constitués de systèmes ponctuels, généralement, très précis, et qui sont placés à certains endroits. Donc on fait un réseau, et en fonction des valeurs que donne ce réseau, en fonction du temps, hein, on arrive à dire, eh ben voilà, on est dans une situation qui se dégrade, les concentrations de ce type de polluants augmentent, il va falloir faire attention. On a aussi derrière un certain historique, une certaine statistique qui nous dit, ah ben voilà, si on est dans un épisode anticyclonique, la température augmente, quand je vois cette concentration augmenter de ce type-là, je sais que demain je risque d'en avoir beaucoup plus, il va falloir faire quelque chose. C'est, disons, la partie administrative de la pollution atmosphérique qui marche relativement bien. D'un autre côté, il y a les chercheurs qui, eux, essayent de comprendre comment cette pollution se forme, de la modéliser et où est-ce qu'on peut agir en amont pour que ça ne se forme pas. Hélas, la pollution atmosphérique est un système extrêmement complexe à appréhender. Donc parfois, réduire la quantité d'oxyde d'azote émise par les voitures n'est pas la bonne manière pour réduire la concentration d'ozone. Donc les chercheurs essayent de comprendre, de simuler et donc de faire des modèles réalistes pour arriver par la suite à prendre les bonnes mesures pour ne pas arriver dans des situations de smog, comme on dit, d'épisodes.
On passe à un exemple d'une observation.
Puisqu'on parlait de l'ozone, voilà un exemple, c'est des mesures qu'on a fait à Paris. On a choisi un endroit particulièrement agréable puisqu'on s'est mis sur le champ de Mars. Et ce qu'on a essayé d'appréhender, c'est la manière dont l'ozone se forme lors d'un épisode en été à Paris. Tu vois la tour Eiffel ici, le système laser est de l'autre côté du champ de Mars et on fait un balayage vertical qui va nous permettre de faire une cartographie de l'ozone en fonction du temps dans un plan vertical depuis le sol jusqu'à plusieurs kilomètres d'altitude. Donc on va avoir cette concentration d'ozone qui va apparaître en fonction du temps et donc on va voir à la fois la dynamique spatiale, combien il y en a au sol, combien il y en a en altitude, etc., et temporelle en voyant comment cette carte va évoluer en fonction de l'heure de la journée. Tu vois qu'on a à peu près 2 km en horizontal sur la carte et à peu près 2 km en vertical. Hein.
Donc ça, c'est la zone qui a été étudiée pendant un temps donné.
Exactement. Donc le laser, tu imagines qu'il fait un balayage vertical, hein, du sol vers le haut, hein, donc entre 0 et 90 degrés, comme ça. Et donc la profondeur, la mesure le long du faisceau est faite par cette technique type radar. Hein. Alors on voit ici donc une première carte. Pour l'instant, elle est arrêtée à 1h du matin. La concentration d'ozone est représentée en code de couleur. Donc rouge, c'est très concentré, 250 microgrammes par mètre cube. Donc on est au-delà des seuils d'alerte. Vert, c'est de l'air pur. Quand je dis de l'air pur, ça veut dire de l'air avec peu d'ozone dedans. Pas dire qu'il n'y a pas autre chose.
Hein. Et, alors, on va dire pur en ozone.
Pur en ozone. Et donc, on voit, par exemple, qu'à 1h du matin, si je regarde la concentration au niveau du sol, ce qui est ce que mesurent généralement les analyseurs du réseau, eh bien, tu vois que les concentrations sont faibles. C'est de l'ordre de 25 microgrammes par mètre cube. Donc, au niveau du sol, peu d'ozone la nuit. Okay. Par contre, tu vois un truc qui est assez bizarre, c'est qu'à partir de 200-300 mètres d'altitude, ça devient rouge, enfin ça devient orange. Et donc au-dessus de ta tête, il y a beaucoup d'ozone qui reste là, qui fait une sorte de réservoir d'ozone qui est au-dessus de ta tête que tu ne mesures pas, mais qui est là, qui est créé par le trafic urbain.
Elle commence à s'affirmer à hauteur du sommet de la Tour Eiffel. Donc si on était au sommet de la Tour Eiffel et qu'on faisait une mesure à cet endroit-là, on se dirait ça va être une journée avec beaucoup d'ozone. Alors que à l'endroit où on le capte, où les échantillonnages sont faits, on se dit que tout va bien.
Oui, c'est un peu ça. Et maintenant, on va faire tourner le film. Tu vas voir, c'est assez complexe comme processus. Donc, l'heure tourne. On est dans la nuit, il est 2 heures du matin. Tu vois que jusque-là, on reste dans cette configuration. Peu d'ozone au sol, mais beaucoup d'ozone en altitude. Toujours 4 heures, 4 heures 30, 5 heures. Et la raison pour laquelle la nuit, il y a peu d'ozone, c'est une raison assez particulière. C'est parce que la nuit, bien sûr, il n'y a pas de soleil. Donc, il n'y a pas de lumière. Par contre, il continue à y avoir des voitures qui circulent, pas beaucoup, mais un certain nombre de voitures qui circulent, qui, eux, émettent des oxydes d'azote. Or, le monoxyde d'azote, le NO, a la bonne idée, si on veut, de détruire l'ozone. Alors, il fait NO plus O3, qui donne du NO2 plus O2. Alors, quand je mesure l'ozone et que j'ai des voitures, je diminue la concentration d'ozone. Alors, ça a l'air super et on dit, bah, tiens, génial, solution. On met plus de voitures qui roulent toute la nuit et je nettoie mon ozone. Le problème quand tu fais ça, c'est que tu as généré un autre polluant qui est le dioxyde d'azote, le NO2, qui n'est pas sur cette carte. Pendant toute la nuit, je mange l'ozone au niveau du sol, pas en altitude, parce qu'il n'y a pas de voiture en altitude. C'est ça qui explique cette différence entre le niveau du sol et l'altitude. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant dans la journée ? Alors ça, c'est le matin. Tu commences à voir que l'ozone à l'altitude commence à tomber. Donc tu commences à la mesurer au niveau du sol aussi. Et puis le NO2, le dioxyde d'azote que tu as généré pendant la nuit, il va commencer à voir le soleil. Et le soleil, il dissocie le NO2 et il régénère de l'ozone. Donc en fait, on a fait une sorte de réservoir pendant la nuit. Il sera là la journée pour réagir avec le soleil et en reproduire, mais beaucoup plus.
Et il arrive qui se passe là en ce moment à l'écran, c'est-à-dire qu'il est midi et demi et que l'ensemble du ciel est totalement rouge. On est entre 200 et 250 microgrammes d'ozone par mètre cube dans l'air.
Donc on est exactement dans une situation d'épisode d'ozone tel qu'on le connaît, avec un seuil d'alerte où normalement on doit d'abord diminuer la vitesse, puis arrêter le trafic, etc. Donc on a exactement ce cas-là où dans l'après-midi, on voit sur le champ de Mars, ça devient complètement rouge. Je te fais juste remarquer que la zone balayée commence à être plus faible. Et la raison, c'est que simplement le faisceau est tellement absorbé qu'il n'arrive plus à aller suffisamment loin. Il y a tellement d'ozone dans l'atmosphère à ce moment-là que le faisceau ne traverse plus. Ça veut dire l'après-midi, quand tu veux aller faire ton jogging sur le champ de Mars, c'est ce que tu respires.
Je vais quand même le dire, à l'écran, là, c'est écarlate, quoi. C'est rouge écarlate.
Tout à fait. Et alors là, voilà, la journée se passe. On arrive de nouveau le soir, le soleil s'en va, il ne dissocie plus le dioxyde d'azote, il ne crée plus d'ozone, les voitures continuent à circuler, et donc on va retrouver cette situation de la nuit où, au niveau du sol, l'air va être, entre guillemets, purifié en ozone, mais au détriment du dioxyde d'azote. Donc, ce que je voulais te dire, c'est que tu vois que c'est une situation qui est extrêmement dynamique, avec une grande hétérogénéité d'un point de vue de l'espace, vertical en particulier, mais aussi avec une grande variabilité au niveau temporel. Je n'ai parlé que des oxydes d'azote et de l'ozone, mais il y a des centaines de réactions chimiques qui donnent lieu à cette destruction d'ozone, notamment avec les composés organiques volatiles. Donc c'est quelque chose de très complexe. Et il faut ce genre de mesures en 3D, en fonction du temps, etc., pour arriver à faire des simulations qui rendent compte de la vraie situation. Et donc ensuite, prendre les vraies mesures pour ne plus arriver à ces situations graves.
« Merci à Jean-Pierre Wolf, professeur de physique. Pour voir le film et l'entendre en live, un rendez-vous, Emmanuel Gripon.
Oui, effectivement, on pourra voir cette animation et cet état de la pollution sur les champs de Mars à Paris. Ce sera mercredi soir, ce sera au Collège de Saussure à Genève, où Jean-Pierre Wolf va donner une conférence sur ce sujet. Et puis on parlera également des lasers qui servent à canaliser la foudre.
Titre de la conférence, Météorologie, pollution et climat. Et c'est dans le cycle de conférences intitulé, j'adore ce titre, Atmosphère, atmosphère.
Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ?
Impatience, Nancy Ypsilantis.